Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on forme le Kylian Mbappé de demain. Bonjour Mathieu Bidot.
Bonjour.
Soyez bienvenue.
Vous êtes responsable du recrutement au centre de formation du FC Nantes. Combien de jeunes, tiens, on va commencer par ça, sont formés chez vous en ce moment et quel âge ont-ils?
Eh bien écoutez, chaque année, on fait rentrer à 15 ans une vingtaine de joueurs, hein, entre 16 et 20, suivant les générations. Donc actuellement, à l'internat, au centre de formation, on a 40 jeunes qui composent les groupes U17 Elite, U17 Nation et U19.
Et on a ça veut dire quoi? C'est les âges U17?
C'est les catégories de compétition. D'accord. Voilà, donc chaque année, on en fait rentrer 20. Et l'objectif pour nous, on estime qu'on a très bien travaillé. Si au bout, il y en a entre 1 et 4 qui signent professionnels et entre 1 et 3 qui font une carrière.
Est-ce que dans votre centre de formation du FC Nantes, vous avez déjà repéré un ou deux Mbappé en puissance?
Alors des Mbappé, non, parce que des Mbappé, ça court pas les rues. Mbappé, c'est une exception. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des très bons joueurs chez nous. Après, vous dire si demain, ils seront du niveau de Kylian Mbappé, je ne le sais pas.
Tout est possible.
C'est tout ce que je nous souhaite, en tout cas, tout ce que je souhaite à un de nos jeunes.
Alors, est-ce que vous saviez que pour devenir footballeur professionnel, il fallait passer un concours d'entrée? Ben oui, mais comment ça se passe ce concours? Réponse dans un instant sur RTL.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Pardon de m'immiscer les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL. Un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur. Avant de passer à table, ce serait dommage de rater ça, non? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
Et but, but de Zidane.
RTL.
Djorkaeff. Et but,
Zidane. Deuxième but.
La curiosité est un vilain défaut.
Et but.
Et troisième but.
But d'Emmanuel Petit. Délire dans le Stade de France.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
C'est dingue, 20 ans après, ça continue de me filer des frissons, l'émotion de Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, le jour de la victoire de la France en Coupe du Monde, 12 juillet 98. Évidemment, c'est le rêve de beaucoup de gamins, des garçons et d'ailleurs de plus en plus de filles, devenir professionnels dans le football. Beaucoup d'appelés, très 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 peu d'élus. C'est ce que nous explique notre invité Mathieu Bidot, qui est responsable du recrutement au centre de formation du football club de Nantes. Donc vous nous avez dit que sur à Nantes, quand vous avez 50 ados, il y en aura peut-être un ou deux qui vont devenir professionnels. Donc il faut quoi? Il faut calmer les parents en permanence. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux qui ont vu leur rêve de devenir professionnel s'évanouir?
Eh ben écoutez, moi je fais partie de ceux qui ont été en centre de formation et qui n'ont pas réussi à franchir le cap, donc je peux en parler assez tranquillement.
Et pourtant vous aviez beaucoup de talent, on misait des espoirs sur vous?
Alors non, justement, je fais partie des joueurs qui ont été pris un peu à la va-vite, parce que forcément quand on recrute, et de plus en plus, il y a une telle concurrence entre les clubs que parfois on a le sentiment d'avoir une pépite en face de nous, donc le lendemain on peut être chez les parents. Donc moi ça m'a aidé un moment parce que j'ai fait un tournoi avec le FC Nantes à l'époque et le FC Nantes le lendemain était chez moi pour me faire signer.
Vous aviez quel âge?
J'avais 16 ans. Voilà, donc j'avais signé 2 ans et puis au bout d'un an, on m'a dit que je pouvais rentrer chez moi parce que très rapidement, le club s'est rendu compte que j'avais pas le niveau.
Alors comment on vous l'annonce? Est-ce que vous pouvez, c'est pas un souvenir facile, mais est-ce que vous pouvez nous raconter comment
je le revois comme si c'était hier. Je monte au self à la Genolière. Loïc Amis.
La Genolière, c'est le centre de.
C'est le centre
formation
d'entraînement du club. Loïc Amis, qui est une légende du club, qui était à l'époque coach des U19, me reçoit. Il me dit, écoute Mathieu, c'est bien, mais ce sera pas assez. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu.
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, Mathieu Bidot, quand vous savez que vous ne deviendrez pas joueur de foot professionnel?
J'étais triste et pourtant ma famille et mes parents ne sont pas du tout branché foot. Et pourtant, j'étais déçu aussi pour eux. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'imagine à quel point les enfants peuvent avoir un poids sur le dos quand ils ont le sentiment qu'une famille et parfois un papa peut être à fond dans le foot, ce qui n'était pas mon cas. Et j'ai quand même moi-même ressenti ça. C'est-à-dire que j'étais triste pour moi et pour ceux qui étaient fiers de moi.
Et pour le... Vous êtes de quelle ville? Douarnenez?
Je suis de Douarnenez, ouais.
Donc, pour l'environnement aussi, c'est-à-dire que quand on...
Bah écoutez,
j'imagine quand on quitte Douarnenez pour aller au centre de formation du FC Nantes, c'est quelque chose.
Bah alors autant, vous êtes une star quand vous quittez soit votre quartier, soit votre village ou votre ville pour partir dans un grand centre de formation. Autant quand vous rentrez, c'est très dur à gérer. Parce qu'autant vous gonflez en termes d'estime de vous, le regard des autres est super intéressant. Autant quand vous rentrez, Je peux vous dire que c'est très très dur parce que les regards sont pas toujours bienveillants, sont pas toujours très faciles à accepter. Donc,
est-ce que ça a changé ça aujourd'hui dans les centres de formation? On fait attention justement quand on recrute des jeunes, on les accompagne un peu plus et on les mène aussi à une sortie plus douce pour des gamins quand même.
Bah écoutez, c'est aussi pour ça que 13 ans après, j'ai écrit un livre. Parce que je me suis dit qu'avec mon passé en centre de formation, mon passé de recruteur pour le club en Île-de-France, voilà, j'avais un recul pour pouvoir dire aux parents, voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe, et de leur donner des clés, justement, pour mieux appréhender l'échec, parce que le football dans les centres de formation, c'est 80% d'échecs.
Ouais. Ce livre, c'est « Je veux devenir footballeur professionnel » aux éditions Amphora. On vous invite aussi, Mathieu Bidot, parce que à partir de lundi, c'est la deuxième phase du concours d'entrée à l'Institut National du Football de Clairefontaine. C'est quoi ce concours? Il y a un concours pour devenir footballeur pro?
Alors, c'est un concours pour intégrer donc le pôle espoir fédéral de Clairefontaine. Il faut savoir qu'il y a 11 pôles comme ça en France, mais le plus connu, donc, c'est celui de Clairefontaine, parce que Thierry Henry et Jean Passe ont été formés là-bas, ou Mbappé d'ailleurs. Donc voilà, actuellement, l'idée, c'est de rassembler les meilleurs joueurs du grand bassin francilien, qui est un bassin en termes de talent qui est énorme. Et il reste 200 jeunes qui ont 13 ans aujourd'hui, qui vont être rassemblés pendant une semaine, donc par tranche de 40
sur des demi-journées. Alors qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Ils jouent des matchs de foot tout simplement, ou alors il y a des ateliers ?
On leur fait faire des petits tests techniques, 2-3 ateliers notamment sur la vitesse, et puis après on les met très rapidement donc en situation de jeu.
Il y a des filles ?
Alors il y a le même type de pôle pour les filles, mais je vous avoue que je m'en occupe pas.
C'est pas, il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe au FC Nantes ou dans les clubs.
Voilà, exactement.
Et comment ils sont choisis ces enfants? Comment on dit, tiens, celui-là, 13 ans, il est meilleur que les autres? C'est quoi les critères?
Alors, il y a de multiples critères et le bon joueur, c'est une combinaison d'un tas de critères. Forcément, ce qui est le plus important, c'est le rapport au ballon, c'est l'aisance technique, c'est le ressenti dans le jeu, c'est sentir que le gamin a le foot dans la peau, qu'il sait où aller, il sait comment se déplacer, il sent les situations venir. Et puis après, il y a forcément aussi, parce qu'on le voit aujourd'hui, le football en 2018 n'est pas le même que dans les années 80. Il faut aller plus vite, il faut sauter plus haut, il faut courir plus longtemps.
Il faut être des super athlètes, c'est ça? Il faut faire de la muscu, être très bon dans plein de sports? Non, mais
un petit peu. Mais aujourd'hui, le joueur de foot moderne, c'est un super athlète, au-delà d'être un super joueur de foot. Et puis forcément, il y a une grosse évaluation aussi sur le bonhomme en lui-même, sur le gamin, sur ce qu'il dégage, sur ce qu'est dans son environnement,
sur son mental.
Voilà.
Alors, vous parliez, Mathieu Bidot, de la pression familiale. Elle existe, et elle existe aussi sur l'argent que touchent ces tout jeunes footballeurs. C'est ce qu'on va vous raconter dans un instant sur RTL.
RTL.
C'est le transfert le plus cher de l'histoire du football. Neymar quitte le Barça et va rejoindre le PSG. 222 millions d'euros.
Est un vilain défaut.
Cet homme est devenu le joueur le mieux payé de la planète foot, Carlos Tevez, près de 40 millions d'euros par saison pendant 2 ans.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Je veux devenir footballeur professionnel. Nombreux sont les enfants qui ont dit ça. Un jour, notre invité a les clés pour les aider. Il est recruteur pour le centre de formation du FC Nantes. Mathieu Bidot, pour ceux qui ne connaissent pas le football, est-ce que Nantes, c'est un club qui est vraiment réputé pour sa formation?
Bah écoutez, j'ai la chance et j'ai l'honneur de travailler pour un club qui est historique en France. Hein, je pense qu'on est 4-5 clubs à pouvoir justifier d'un passé.
C'est très ancien, le FC Nantes ?
C'est très ancien, et puis surtout en termes de formation, c'est un club qui a été référence. Mm-hmm. C'est un club qui avait 20 ou 25 ans d'avance. On a sorti des joueurs comme Deschamps, comme Marcel Desailly, comme Carambeu, comme Landreau, enfin comme
beaucoup
de joueurs, voilà. Et puis, comme tous les clubs, le FC Nantes a connu une période un peu moins faste. Le FC Nantes s'est peut-être endormi un peu sur ses lauriers parce qu'on avait de l'avance. Aujourd'hui, les gens vont au Barça voir ce qui se passe. À l'époque, les gens venaient à Nantes voir ce qui se passait. Et donc,
est-ce qu'on peut dire combien de joueurs pros vous sortez chaque année, ou ça se quantifie pas vraiment comme ça?
Alors chaque année, on fait signer, encore une fois, entre 2 et 4 jeunes pros.
C'est beaucoup?
C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 7-8 clubs en France à avoir des statistiques au-dessus de la moyenne. C'est ce qu'on appelle les clubs formateurs. C'est-à-dire que chez nous, dans nos clubs, quand il manque quelqu'un en pro ou quand il y a un trou à un poste, avant d'aller investir sur un recrutement, on va d'abord voir ce qui se passe chez nous.
À partir de quel âge, Mathieu Bidot, un jeune qui est en centre de formation gagne un peu d'argent?
Alors, les enfants arrivent à 15 ans au centre de formation. Ils sont sous contrat, un contrat de travail, c'est-à-dire qu'on appelle ce contrat-là le contrat aspirant. Et grosso modo, la première année au centre, à 15 ans, ils gagnent entre 500 euros brut et 1000 euros brut.
Voilà. Et l'année d'après, un peu plus.
Et l'année d'après, vous pouvez augmenter par palier de 200 ou 300 euros. Donc, on va dire qu'au bout de 3 ans au centre de formation, vous gagnez entre 800 et 1300, 1400 euros.
Et on voit qu'il y a une logique qui s'inverse. C'est-à-dire que là où les enfants dépendent de leurs parents, c'est normal. Souvent, la famille se met à dépendre du jeune joueur de foot, c'est ça ? Et de son argent ?
J'ai envie de vous dire, les 3 premières années, pas forcément. Ouais. En tout cas, ça soulage les parents. C'est vrai qu'ils ont un peu moins de choses à acheter pour leurs enfants. C'est vrai aussi qu'on ne recrute pas beaucoup de joueurs rue Bayard ou dans le 8e arrondissement. Donc, on a souvent affaire à une population et à des joueurs qui sont en difficulté, voilà, qui connaissent, qui savent ce que c'est la vie. Et donc, forcément, à un moment, quand le jeune signe stagiaire ou signe pro et qu'il a rapidement des salaires à 2, 3, 4, 5 000 euros, là, c'est sûr que la tendance, elle peut s'inverser.
Et à ce moment-là, la pression de la famille peut être insupportable. C'est ce que raconte Emmanuel Adebayor dans un documentaire diffusé sur Canal+, réalisé par Olivier Dacour, un ancien joueur pro de très, très haut niveau. Emmanuel Adebayor, repéré par le football club de Metz et dont la famille restée au Togo, lui réclamait de l'argent. Écoutez.
J'étais dans ma chambre à Metz et mon grand frère qui était en Allemagne est venu me voir.
T'avais quel âge ?
J'avais 16 ans. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. J'ai vidé mon compte. Je commence à dire, mais j'en ai marre, c'est quelle vie ça ? Ma grande-sœur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas. Et j'ai appelé ma grande-sœur, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? J'en ai marre, il faut que je parle. Ça sert à rien de rester vivant.
T'as pensé au suicide ?
J'ai pensé au suicide. J'avais pris les médicaments et tout, et c'était à côté de moi.
Mathieu Bidot, cette pression familiale, vous y avez assisté à Nantes sur les jeunes qui se forment ?
Alors, pour être très clair et pour dire les choses, j'y ai assisté et ça arrive souvent pour des joueurs qui arrivent d'Afrique. Mais je peux très bien le comprendre parce que je connais très bien l'Afrique, ma femme est africaine. Je vais souvent en Afrique pour le compte du FC Nantes et je peux comprendre, vu les difficultés dans lesquelles vivent les gens là-bas.
C'est-à-dire 2000 euros ici, c'est énorme là-bas, quoi.
Voilà, et puis surtout, il y a une différence de culture, c'est-à-dire que en Afrique, parfois vous faites aussi des enfants parce qu'il n'y a pas de retraite, parce qu'il n'y a pas de choses comme ça, et donc les enfants, à un moment aussi, sont là pour s'occuper des parents. Mmh. Voilà, nous ici en France, on a de la chance, on s'occupe de nous, on nous paye tout. Quand on est malade, eh ben on est remboursé, on a une retraite qui nous attend. C'est pas le cas en Afrique. Et donc,
voilà. Et ça peut faire craquer certains jeunes joueurs, apprentis professionnels de football, cette pression sur l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent les perturber pendant cette formation
Est-ce que vous avez déjà vu des gamins craquer, c'est-à-dire faire une sorte de burn-out, de dépression à cause de cet environnement, à cause de la pression du résultat, à cause de la concurrence?
Sincèrement, non. J'ai déjà eu en 10 ans 2-3 enfants qui sont montés me voir dans mon bureau pour me dire « Mathieu, ce serait bien que tu vois papa ». En gros, ils n'étaient pas en burn-out, mais on sentait que les enfants en avaient un peu marre que leur papa soit au bord de la touche. Ils sentaient que leur papa, pendant les matchs, avait tendance peut-être à crier un peu sur l'arbitre et que ça les mettait mal à l'aise pour ce genre de petites choses-là. Après, c'est pas, il ne faut pas en faire une caricature, hein, oui, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive.
La curiosité continue sur RTL. Dans un instant, vous verrez que l'un des pièges à éviter pour les apprentis footballeurs, ce sont les réseaux sociaux.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
C'est un passement de jambes sur le beach flanc.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Hola, hola, le stade est rempli. Les supporters font la hola. Olé, olé. Les magiciens du ballon, fille ou garçon. Le mot d'or, c'est mettre la balle au fond. L'entraîneur veut de la motivation, motivation.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Doc Gynéco, Ayam, Tommy Bugsy, inspiré par le monde du foot, forcément. Comment devenir footballeur professionnel ? On dévoile la face cachée des rêves de gosse grâce à Mathieu Bidot, qui est directeur du responsable du recrutement au centre de formation du FC Nantes. D'ailleurs, un petit coucou à Bastien Robin, journaliste qui a bossé avec nous pendant 6 mois, qui est un grand fan du football club de Nantes.
Et il aime bien qu'on dise « Allez, LA », parce que c'est la Loire-Atlantique, LA.
Il ne faut pas trop en faire non plus. Comment devenir footballeur pro ? C'est aussi le titre du livre qui est basé sur votre expérience. Vous avez failli devenir professionnel. Mathieu Bidot, et puis à 17 ans, vous a dit ben, vous n'êtes pas assez bon. Et là, l'environnement familial a été très important. Vos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vous ont dit continue tes études ? Comment ils vous ont aidé ?
Alors déjà, ils m'ont pas du tout poussé à continuer dans le foot. J'ai la chance qu'à l'école, ça se passait plutôt bien. Et avec le recul, alors je me rends compte aujourd'hui, j'ai eu la chance de tomber sur des parents qui m'ont pas trop laissé le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parle souvent avec nos recruteurs au club ou avec nos éducateurs, j'ai parfois l'impression que certains parents écoutent trop leur enfant. Et on part du principe, nous, qu'entre 15 et 18 ans, on n'est pas à même de prendre les bonnes décisions pour soi. Et je trouve parfois, je dis bien parfois, hein, c'est pas une généralité, mais que certains parents sont trop gentils avec leur enfant et ils devraient prendre des décisions pour eux. Donc moi j'ai rapidement été réorienté, ou en tout cas on a poussé sur le niveau scolaire. Et si je suis ici aujourd'hui pour vous parler, c'est grâce à l'école, parce que j'étais de Douarnenez. Je suis devenu enseignant assez rapidement. Si j'avais pas été enseignant, je serais jamais venu vivre à Paris. Si j'étais pas venu à Paris, j'aurais jamais intéressé un club pour jeter un coup d'œil pour eux. Voilà. Donc c'est un peu mon cheminement personnel.
Ces apprentis joueurs de foot, ils doivent avoir tous des smartphones ou un ordinateur. Est-ce que vous leur apprenez, Mathieu Bidou, au centre de formation, à gérer les réseaux sociaux ?
Alors moi, je suis très réseaux sociaux. C'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, les clubs ont des gens à l'intérieur du club qui ne s'occupent que de ça. Et donc, pas plus tard qu'il y a 3 mois, on a fait une formation à nos jeunes. Alors, c'est plus moi qui l'a fait. Maintenant, c'est un spécialiste des réseaux sociaux qui le fait. Voilà, on va dire que les affaires Aurier et j'en passe et des meilleurs nous ont aidés aussi à nous rendre
Aurier,
compte.
Il faut peut-être rappeler d'un mot, c'est une vidéo où il est en train de, je crois, fumer de la chicha avec un copain et il dit du mal de toute l'équipe du PSG à l'époque. Qui jouait à Paris.
Voilà, donc c'est une histoire, mais je pense qu'il y en a eu d'autres. Et donc voilà, ça nous a permis à nous aussi, les clubs, de prendre conscience de la violence que ça pouvait avoir. Par exemple, on a eu un cas d'école il y a un mois de ça, un enfant qui a, de chez nous, qui a un copain qui joue au Girondins de Bordeaux. Voilà, Girondins de Bordeaux, donc le rival historique du FC Nantes. Le gamin, son pote lui envoie un maillot des Girondins par la poste. Il se met sur les réseaux sociaux, il se prend en photo avec le maillot des Girondins. Et puis là, les supporters lui sont tombés dessus sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, et je comprends très bien, qu'un enfant qui est au FC Nantes, qui est payé par le FC Nantes, qui est sous contrat avec le FC Nantes, se prenne en photo avec le maillot du club, historiquement, le club rival. Voilà. Ouais. Donc voilà le genre de soucis qu'on règle parfois et qu'on doit faire comprendre à nos jeunes.
Et dernier mot, parce qu'il y a une dimension qu'on ne connaît pas bien. Quand, par exemple, Monaco vend Kylian Mbappé à Paris pour 180 millions d'euros, est-ce que ça rapporte à ces clubs formateurs ?
Oui. C'est un peu trop frais. On n'en a pas forcément parlé, mais par exemple, sur le transfert de Anthony Martial, qui est passé de Monaco à Manchester il y a 2 ans pour 80 millions d'euros, je crois que le club des Ulysses, dans lequel il a évolué entre 12 et 14 ans, a touché grosso modo 600 000 euros. Donc voilà un petit peu le rapport. Donc j'imagine que le club de Bondy, dans lequel a évolué Kylian pendant des années... a pu s'offrir une nouvelle navette.
Voilà. Juste récompense.
Voilà, ah oui, football professionnel qui redistribue un petit peu au foot amateur. Merci beaucoup Mathieu Bidou. Votre livre « Je veux devenir footballeur professionnel » est publié donc aux éditions Amphora, coécrit avec Laurent Momja.
Vous écoutez RTL.